Vous écoutez On lit pour vous.
Comment le Québec a été envahi? En un coup d'œil, 1775-1776. Un texte de Jean-Christophe Laurence paru le 14 juin 2026 dans la presse. Alors, en guerre contre l'Empire britannique, les troupes américaines ont lancé une offensive vers le nord à l'automne 1775. Voici comment s'est déroulée l'attaque et l'occupation, pendant quelques mois, d'une partie du territoire québécois. Deux routes vers Québec. L'invasion américaine de 1775 implique deux armées continentales. La première, dirigée par le général Richard Montgomery, emprunte le lac Champlain et la rivière Richelieu pour capturer Montréal le 13 novembre avant de foncer vers Québec. La seconde, menée par le colonel Bénédicte Arnold, va traverser la forêt du Maine, descendre les rivières Kennebec et Chaudière et passer par la Beauce avant de déboucher sur la rive sud de Québec. On parle d'une expédition éprouvante en raison d'un terrain hostile, de famine, de petites véroles et d'épuisement. Les deux armées vont tenter un assaut de Québec le 31 décembre, en pleine tempête de neige. Ce choix de date s'explique du fait que le contrat de plusieurs soldats américains se terminait le 1er janvier 1776. Un fiasco. L'assaut sur Québec est un échec total. Montgomery part du pied du Cap Diamant, en saut foulon, Arnold de la rivière Saint-Charles, quartier Saint-Roch. Mais l'armée anglaise, sous le commandement de Guy Carleton, résiste aux attaques. Montgomery est tué, Arnold blessé. Les Américains doivent battre en retraite. Ils entament dans la foulée le siège de la ville qui durera jusqu'à l'arrivée de renforts britanniques au printemps 1776. Les 13 colonies. Les 13 colonies fondatrices des États-Unis sont créées successivement entre 1607 et 1733. La toute première est la Virginie. La dernière est la Géorgie. Bien que relevant de la Grande-Bretagne, elle bénéficie d'un degré d'autonomie très élevé, du moins jusqu'en 1763. Endettée par la guerre de 7 ans contre la France, qui comprend notamment la bataille des Plaines d'Abraham, Londres resserre la vis et impose de nouvelles taxes extrêmement impopulaires dans les 13 colonies, ce qui va mener à la Révolution et à la création des États-Unis. En 1775, les 13 colonies sont la Virginie, le Massachusetts, le New Hampshire, New York, le Maryland, le Connecticut, le Rhode Island, le Delaware, le New Jersey, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Pennsylvanie et la Géorgie. Le Congrès continental. Organisé à Philadelphie en réponse aux lois intolérables imposées par Londres, le Congrès continental de 1775-1781 est le premier gouvernement central des 13 colonies en révolte. C'est le Congrès qui crée l'armée continentale qui va tenter d'envahir le Québec, qui nomme George Washington général en chef et qui va finir par voter la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Le Congress Own, propre au Congrès, est le nom donné au 2e régiment de l'armée continentale créé au Canada en janvier 1776 après l'assaut raté de la ville de Québec. C'était « Comment le Québec a été envahi » en un coup d'œil, 1775-1776. Un texte de Jean-Christophe Laurence paru le 14 juin 2026 dans la presse.
Près de 25 000 logements vacants à Montréal. Un texte de Lauriane Croteau et Marie-Isabelle Rochon, paru le 17 juin, sur le site de Radio-Canada Info. L'île de Montréal compterait à elle seule près de 25 000 logements inhabités, révèle notre analyse exclusive de données de consommation d'électricité d'Hydro-Québec. C'est l'équivalent de la totalité des logements du quartier Villeray en pleine crise du logement. De l'évacuation d'urgence aux rénovictions, les raisons qui expliquent ce nombre si élevé de logements inhabités varient. L'immeuble du plateau où résidait Élie Bobotoni est vacant depuis plus de 3 ans. À l'automne 2022, les 10 ménages locataires ont eu seulement 2 semaines pour évacuer les lieux à cause d'un risque d'effondrement de la façade. « J'ai dû chercher un logement à une drôle de période de l'année. Il y a beaucoup de déménagements en juillet, mais là, on était au mois d'octobre. J'ai deux chats, je suis un homme seul aussi. Ça a été compliqué. À cause d'un litige avec l'entrepreneur, les travaux sont suspendus depuis plus d'un an et demi. De retour devant son ancien chez lui, Élie Bobo-Tony ne cache pas sa déception. C'est vide, il n'y a pas de plancher, il n'y a presque pas de mur, constate-t-il. Il y a même des portes qui n'ont pas de poignée. Ce cas est loin d'être unique. Dans certains secteurs, la concentration de logements vacants est particulièrement importante, comme au pied du Mont-Royal, dans le centre-ville et dans les arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et, justement, du plateau Mont-Royal. Selon notre démarche, un logement est considéré comme vacant si sa consommation électrique était sous les 1000 kWh en 2025, ce qui correspondrait à une plainte fonctionnant en continu pendant 2 mois. À titre comparatif, les clients résidentiels consomment en moyenne 17 000 kWh par année. Impossible de savoir toutefois, à travers ces données, si ces logements sont principalement des condos ou des appartements, par exemple. On sait toutefois que ces quelque 25 000 logements inhabités représentent 2,6 % de toutes les adresses résidentielles desservies par Hydro-Québec sur l'île de Montréal. Les hypothèses ont fusé lors de nos entrevues sur les raisons pour lesquelles des milliers de logements seraient inoccupés. La plus probante, selon le doctorant en géographie à l'Université de Montréal, Yaya Bowman, est celle de logements acquis comme actifs financiers. On ne cherche pas ici un revenu immédiat, mais plutôt un profit intéressant lors de la revente à moyen ou long terme. Les propriétaires, canadiens ou étrangers, ne les mettent donc ni en location ni sur Airbnb. Un phénomène similaire se produit aussi avec les immeubles locatifs. Certains propriétaires acquièrent ces immeubles dans un objectif de pure spéculation immobilière, affirme l'avocate Kimiane Brown, cofondatrice du cabinet Défends-toi. Ils convainquent les locataires de partir et au fur et à mesure, les locataires plus combatifs ou soucieux de faire valoir leurs droits vont se retrouver seuls. Les logements neufs ont aussi de plus en plus de mal à être loués ou achetés. On construit de plus en plus de logements pour répondre à la crise sans penser réellement aux besoins des ménages locataires, déplore Yaya Bowman. Donc, on construit des condos locatifs qui ne trouvent pas preneur parce qu'ils sont trop petits ou trop chers. Des résidences secondaires pourraient aussi figurer dans notre liste si elles sont utilisées comme pied-à-terre, selon Francis Cortellino, économiste à la SCHL. Cette hypothèse s'appliquerait principalement dans les secteurs où l'on retrouve davantage de maisons unifamiliales, comme dans l'ouest de l'île. Elle ne peut donc expliquer le phénomène à elle seule. Les logements vacants sont une stratégie, un symptôme, un problème au cœur de la crise du logement, affirme l'avocate Kimiane Brown, qui a aidé des dizaines de locataires confrontés à ce phénomène au cours de la dernière année. Elle constate que de nombreux logements sont laissés vacants volontairement par des propriétaires qui tenteraient de profiter d'une faille dans la clause G du bail. En effet, la loi oblige un propriétaire à y inscrire le prix payé par le locataire précédent, sauf si le logement a été vacant plus d'un an. Facile alors d'augmenter considérablement le loyer, ni vu ni connu. Les locataires ont tout avantage à laisser le logement vacant plus d'un an pour éviter le mécanisme de la clause G, donc c'est plus payant pour eux. Ce scénario a fait l'objet le mois dernier d'une enquête de Radio-Canada qui a révélé que des centaines de logements étaient ainsi laissés vacants depuis des mois dans un complexe immobilier d'environ 600 logements à Pointe-aux-Trembles dans l'est de Montréal. Le porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Corpic, Éric Sanssouci, estime qu'au contraire, il n'y a pas de propriétaires qui sont dans la business de logements vides car ça ne fonctionne pas économiquement. Il faut regarder plus loin que l'intention machiavélique. Ça se peut, mais c'est anecdotique. Le propriétaire québécois souhaite rénover et avoir des logements qui sont occupés. J'ai une hypothèque à payer, j'ai l'entretien à payer, ajoute celui qui est aussi propriétaire et gestionnaire immobilier. Il montre plutôt du doigt les coûts de construction qui ont augmenté deux fois plus rapidement que l'inflation depuis la pandémie et le temps nécessaire à l'obtention d'un permis de construction ou de transformation à Montréal. La priorité pour réduire le nombre de logements vacants à Montréal serait donc d'abattre les obstacles aux rénovations, selon la CORPIC. Il y a des projets qui peuvent s'étaler facilement sur un an, deux ans, le temps de tout mettre en place et de réaliser le projet. C'est ce qui est arrivé à Élie Bobo-Tony. Au moment de quitter les lieux, il a reçu l'équivalent de 6 mois de loyer de la part de ses anciens propriétaires, mais il soutient que l'évacuation aurait pu être évitée par un entretien régulier de l'édifice. Des fentes étaient déjà visibles sur les murs de son appartement lorsqu'il a emménagé en 2020. Si le propriétaire était un peu plus présent, s'il avait posé des questions, s'il était intéressé, il aurait pu voir, il aurait pu prévenir plutôt que guérir. Le propriétaire a bel et bien entamé des travaux en 2023, a-t-il confirmé à Radio-Canada. Mais il stagne depuis plus d'un an et demi à cause d'un litige avec l'entrepreneur qui assurait à la fois la démolition et la reconstruction. Je ne veux pas qu'on pense que je suis un propriétaire qui essaie de profiter du système pour envoyer des gens dehors, a expliqué Jean-François Sam-Jam-Kwang lors d'un entretien téléphonique. Mes locataires, il y en a que ça faisait 30 ans qu'ils restaient là. Il a dépensé plus $1 million en travaux depuis 2023 et dit avoir l'intention de remettre les logements sur le marché locatif. La volonté de traquer les bâtiments vacants ne date pas d'hier à Montréal. L'administration de Valérie Plante avait adopté en 2023 un règlement pour mieux encadrer leur occupation et leur entretien. Les estimations les plus récentes de la ville sont de quelque 800 bâtiments vacants à Montréal, un chiffre particulièrement bas comparativement aux 25 000 unités vacantes recensées par Radio-Canada. L'écart s'explique d'abord par le fait qu'un même bâtiment peut contenir plusieurs logements. Mais surtout, la ville a une définition très restreinte de ce qui est vacant, soit un bâtiment dont les services ont été coupés. Aqueduc, égout, électricité, gaz. Notre analyse montre que de nombreux logements peuvent demeurer inoccupés pendant plus d'un an, même si ces services sont toujours disponibles. Au-delà des bâtiments vacants, il y a aussi des enjeux de logements vacants dans des immeubles qui ne le sont pas, ce qui pointe vers un autre problème que la ville pourrait tenter de régler en légiférant, souligne Yaya Bowman. La répartition des 24 911 logements vacants est loin d'être uniforme sur l'île. Les données d'Hydro-Québec n'incluent pas l'adresse de chaque unité, par souci de confidentialité, mais plutôt la région de tri d'acheminement, RTA, soit les trois premières lettres du code postal. Parmi les milliers de logements considérés comme vacants dans notre analyse en raison de leur très faible consommation électrique, 189 sont associés à l'ancien tarif DM d'Hydro-Québec, utilisé pour des immeubles comptant plusieurs logements desservis par un même compteur. Notre total est donc probablement sous-estimé, puisqu'il ne compte qu'un seul logement pour ces bâtiments complets. Dans le H2X, qui regroupe le quartier des spectacles et Milton Park, dans Ville-Marie et sur le plateau Mont-Royal, on compte 685 logements vacants, soit le nombre le plus élevé de toutes les RTA de l'île. Le secteur se distingue d'ailleurs par un taux d'inoccupation particulièrement élevé, soit près d'un logement locatif sur cinq selon la SCHL, bien au-dessus de la moyenne montréalaise d'environ 3%. Se trouve ensuite la ville liée à Hampstead, H3X, le secteur au nord du Mont-Royal, H3T, divisé entre Outremont et Côte-des-Neiges, et celui au sud de la montagne, H3H, qui comprend Shaughnessy Village dans le centre-ville. Chacun compte environ 650 logements vacants selon notre analyse. Le centre-ville de Montréal est dans un marché beaucoup plus détendu que le reste de la ville, souligne l'économiste de la SCHL, Francis Cortellino. C'est pourquoi les taux d'inoccupation y atteignent entre 6 et 7 dans le marché locatif, notamment en raison des nombreuses constructions réalisées au cours des dernières années. À cela s'ajoute une demande à la baisse dans ces quartiers, puisque le nombre d'étudiants internationaux et de travailleurs temporaires a diminué. Le phénomène pourrait également toucher certains condominiums acquis à des fins d'investissement. Plusieurs propriétaires ont acheté dans l'espoir de louer ou de revendre avec profit et se retrouvent aujourd'hui dans un marché moins favorable, note l'économiste. La location va moins bien, les ventes sont plus difficiles et les investisseurs sont beaucoup moins intéressés qu'il y a quelques années. Dans l'ouest de l'île, dans le H9W, qui correspond grossièrement à la ville liée à Beaconsfield, près d'un logement sur 10 est vacant et le taux d'inoccupation est particulièrement bas à 2,3 % selon les données de la SCHL. La réalité de ce secteur, composé principalement de maisons unifamiliales plutôt que de condos ou d'appartements, laisse croire à une grande part de résidences secondaires dans cette liste de quelques 600 logements, selon Francis Cortellino. Même si elle amène de nouvelles informations pour comprendre l'enjeu des logements vacants à Montréal, notre analyse ne détaille pas les raisons pour lesquelles ces milliers de logements ne sont pas habités. Sont-ils vacants pour des raisons de spéculation, pour la tenue de travaux, leur prix est-il trop élevé? Ou est-ce leur état de délabrement qui fait en sorte qu'on ne peut pas y habiter? Difficile à dire, car ces réalités échappent aux outils de mesure de notre disposition. Elles ont toutes cependant en commun de retirer des logements d'un marché qui peine à répondre à la demande. Hydro-Québec a partagé avec Radio-Canada les points de livraison du Québec, PDL, qui ont consommé une très faible quantité d'électricité en 2025, soit moins de 1000 kWh, un seuil considéré comme plutôt conservateur par les experts consultés. Ces données étaient ventilées par région de tri d'acheminement, les trois premiers caractères du code postal, et par secteur, soit les tarifs D, DP, DT et DM, égale résidentiel, G égale commercial et M égale institutionnel ou grande entreprise. C'est sur les points de livraison qu'Hydro-Québec base son système de facturation. Chaque PDL correspond à un abonnement unique et est associé à un compteur d'électricité ou à un groupe de compteurs pour un même abonné. Dans la majorité des cas, un DPL équivaut à un seul logement ou commerce. Dans certains immeubles, toutefois, le propriétaire paie l'électricité pour tout l'immeuble, donc on ne compte qu'un point de livraison. Si un des logements est vacant, dans ces cas, la consommation totale de l'électricité franchit probablement notre seuil maximal de consommation et n'est pas comptabilisée comme vacant. Une faible consommation d'électricité n'indique pas nécessairement qu'une unité est inoccupée. Elle pourrait s'expliquer par la très petite superficie du logement, une occupation occasionnelle ou le recours à une source d'énergie autre que l'électricité pour le chauffage et la climatisation. Des compteurs de service, par exemple, pour alimenter des ampoules dans une entrée ou un corridor commun, pourraient aussi faire partie du lot puisqu'ils consomment peu. À l'inverse, une unité véritablement inoccupée peut ne pas être comptabilisée dans notre analyse si sa consommation dépasse le seuil retenu. Par ailleurs, une unité pourrait être inoccupée de façon involontaire, par exemple lorsqu'un logement mis en location ou en vente ne trouve pas preneur. C'était près de 25 000 logements vacants à Montréal, un texte de Lauriane Croteau et Marie-Isabelle Rochon, paru le 17 juin sur le site de Radio-Canada Info.
feu vert pour le démarrage de la phase 2 du campus 1000 de l'Université de Montréal. Un texte de Université de Montréal Nouvelle paru le 15 juin 2026 sur le site de l'UDM. Depuis 5 ans, le complexe des sciences de l'Université de Montréal, au campus 1000, est devenu un lieu incontournable de découverte, d'apprentissage et d'innovation. Des milliers d'étudiantes et d'étudiants y ont fait leurs premiers pas dans l'univers de la recherche, tandis que des équipes scientifiques y ont repoussé les frontières du savoir. Le développement du complexe franchit aujourd'hui une nouvelle étape. Les gouvernements provincial et fédéral confirment un appui financier de plus de 200 millions de dollars, tandis que la Fondation Courtois, dirigée par Jacques Courtois, accorde à l'UDM un don exceptionnel de 139,4 millions de dollars qui permettra la construction de l'Institut Courtois. Les travaux débuteront dès cet été et devraient mener à l'inauguration de nouvelles infrastructures au cours de l'année 2029. Cette deuxième phase du complexe des sciences est prévue depuis les débuts de l'élaboration du Campus 1000. Les équipes de l'UDM travaillent depuis quelques années déjà au développement de 2 nouvelles ailes qui viendront se greffer aux bâtiments existants. La confirmation du financement des gouvernements était la dernière étape à franchir pour lancer les appels d'offres qui permettront le début des travaux. La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, a confirmé le financement du projet lors d'une annonce qui a eu lieu au Campus 1000. Elle était accompagnée de son collègue Éric Girard, ministre des Finances. Du côté du gouvernement fédéral, ce sont Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada et députée d'Outremont, et Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, qui étaient présentes. Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements du Québec et du Canada pour ce soutien majeur à la science et à l'innovation. Ce projet illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les secteurs publics et philanthropiques unissent leurs forces, a indiqué le recteur de l'UDM, Daniel Jutras. Pour ce projet, le soutien de la Fondation Courtois s'élève à 139,4 millions de dollars. 100 millions de dollars proviennent du don historique annoncé en 2021, auquel s'ajoutent aujourd'hui 39,4 millions de dollars. Jacques Courtois est sans contredit l'un des plus proches alliés de nos scientifiques, a ajouté le recteur. Toutes les universités devraient pouvoir compter sur un partenaire comme M. Courtois. Les nouvelles installations permettront le déménagement du département de mathématiques et de statistiques ainsi que celui d'informatique et de recherche opérationnelle pour ainsi regrouper au même endroit les 6 départements de sciences naturelles de l'UDM. Les disciplines de chimie, physique, géographie et sciences biologiques sont situées au Campus 1000 depuis l'inauguration du complexe des sciences en 2019. L'Institut Courtois occupera une des 2 nouvelles ailes et sera équipé de laboratoires à la fine pointe de la technologie. Au fil des années, il est devenu évident pour moi que mon engagement auprès de l'Université de Montréal se ferait au profit de la recherche fondamentale. Pour la simple et bonne raison que la science au long cours, sans résultats concrets à court terme, n'est pas beaucoup valorisée par la société. Pourtant, ce sont ces travaux de recherche qui, souvent, après de nombreux essais et erreurs, contribuent à changer le monde. Je ne doute pas une seconde qu'une découverte d'envergure aura lieu à l'Institut Courtois et je me réjouis de penser que mon geste de philanthropie aura fait une réelle différence, indique Jacques Courtois. L'Institut Courtois a été lancé en 2022 grâce au soutien de la Fondation Courtois. Les chercheuses et les chercheurs dans les domaines de la chimie, la physique et l'informatique ont un objectif commun, celui d'exploiter les récentes avancées de l'intelligence artificielle. Si nous voulons favoriser notre prospérité dans la durée, nous devons nous assurer de la vigueur de nos capacités scientifiques autant en recherche fondamentale qu'en recherche appliquée. C'est d'autant plus vrai dans les secteurs stratégiques comme ceux de l'Institut Courtois. Nous avions déjà des chercheurs d'exception, mais il sera d'autant plus facile de recruter de la relève pour les soutenir dans leurs projets. Par ailleurs, nous pouvons dorénavant les outiller des meilleures plateformes et les fédérer avec notre expertise avérée en intelligence artificielle pour ainsi accélérer la recherche sur les matériaux avancés et les propriétés quantiques de la matière, au plus grand bénéfice de nos collectivités, ajoute le doyen de la Faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard. Plus qu'un pavillon, un complexe des sciences ouvert sur le monde. Les deux nouvelles ailes ont été imaginées par le consortium Menken-Schoner-Dagenais-Letourneux, le MEI-NFOE Architecte. Elles totaliseront 32 000 mètres carrés et seront construites de part et d'autre du complexe. Elles compteront 18 salles de classe et un auditorium, ainsi qu'un agrandissement de 1 300 mètres carrés de la bibliothèque, sans compter des espaces de bureaux, des salles de rencontres, des espaces pour la diffusion et la vulgarisation scientifique, un centre de recherche mathématique et un centre de calcul à haute performance, des laboratoires spécialisés ainsi que des plateformes de recherche partagées. Des espaces pour la vie étudiante ainsi qu'un bistrot ouvert sur la rue viendront compléter les lieux. À terme, 1 300 étudiants de premier cycle, 680 étudiants de cycle supérieur et 410 employés seront accueillis. Depuis la revitalisation du site de l'ancienne gare de triage, sous l'impulsion de l'Université de Montréal, et l'inauguration en 2019 du complexe des sciences, le secteur s'est considérablement développé. On y retrouve désormais de nombreux bâtiments qui comptent plus de 1 000 logements et une école primaire qui ouvrira ses portes à la rentrée 2026. Le site compte aussi les parcs Alice Girard et Pierre Dansereau et une réserve foncière de plusieurs hectares seront éventuellement développées par l'UDM. C'était Feu vert pour le démarrage de la phase 2 du Campus 1000 de l'Université de Montréal. Un texte de Université de Montréal Nouvelle, paru le 15 juin 2026 sur le site de l'UDM.